On va tourner dans Acte 20 encore cette semaine. Et on va lire une plus courte portion des Actes ce matin. Alors, Acte 20, verset 17. Et mon épouse va nous lire jusqu'au verset 31 ou 35, si je ne m'abuse. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
Il envoya quelqu'un à Éphèse pour demander aux responsables de l'Église de venir le rejoindre. Quand ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis comporté pendant tout le temps que j'ai passé parmi vous, depuis le jour de mon arrivée dans la province d'Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec des larmes, au milieu des preuves suscitées par les complots des Juifs. Vous savez aussi que, sans rien vous cacher, j'ai annoncé et enseigné tout ce qui pouvait vous être utile, soit publiquement, soit dans vos maisons. Sans cesse, j'ai appelé Juifs et Grecs à se tourner vers Dieu et à croire en Jésus, notre Seigneur. Et maintenant, me voici en route pour Jérusalem. L'Esprit m'y oblige, mais j'ignore ce qui m'y arrivera. Tout ce que je sais, c'est que le Saint-Esprit m'avertit de ville en ville que je dois m'attendre à être emprisonné et à connaître bien des souffrances. Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur m'a confié, c'est-à-dire de proclamer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et maintenant, je le sais, vous tous, au milieu de qui j'ai passé en prêchant le règne de Dieu, vous ne me reverrez plus. C'est pourquoi je vous le déclare solennellement aujourd'hui, je suis dégagé de toute responsabilité à votre égard, car je vous ai annoncé tout le plan de Dieu, sans rien passer sous silence. Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'Église, que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants. Rappelez-vous que pendant 3 années, la nuit comme le jour, je n'ai cessé de vous conseiller un à un et parfois même avec larmes. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous, alors, éclatèrent en sanglots, et ils se jetèrent au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'était de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus. Puis ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau.
Merci, alors on va prier. Père éternel, je veux te remercier pour ta parole, Seigneur. Je veux te remercier pour l'histoire de l'Église, pour ce livre des Actes où on voit ces gens que tu as saisis de ton amour et qui, à leur tour, après avoir été touchés par ce don, Seigneur, que tu as fait en leur faveur, en viennent à consumer, Seigneur, à consommer leur propre vie, à se donner pour ton Église, Seigneur. Je pense à Paul, je pense ici aux anciens, et je pense à toute l'Église qui est là, Seigneur. Père, je veux te demander ce matin de venir parler à nos cœurs de ton Église, parler à nos cœurs de la croissance spirituelle, parler à nos cœurs, Seigneur, de ta vision à toi. Et je te prie dans ta grâce que par ton Esprit Saint, tu viennes appliquer ce passage et ce qui va être sorti de ce passage à chacune de nos vies là où nous sommes rendus, Seigneur. Autant celui qui ne te connaît pas personnellement, celui qui ne t'appartient pas, que celui, Seigneur, qui t'appartient et qui a un rôle à jouer, Seigneur, dans ton plan. Remplis-moi de ton esprit et de ta grâce ce matin, Seigneur. Je le demande dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je commence avec deux questions ce matin. Comment est-ce qu'on fait pour grandir spirituellement? La spiritualité, c'est quand même une question assez présente dans notre société. Il y a toutes sortes de parcours, il y a toutes sortes de voies, toutes sortes de chemins qui sont offerts. Comment est-ce qu'on fait pour grandir spirituellement? Comment est-ce qu'on fait pour avancer dans notre cheminement spirituel? Et pour moi, il y a une sous-question qui vient avec ça. Parce que, quelle que soit la réponse qui est venue dans votre esprit, ou si on jasait ensemble, on prenait un café, quelle que soit la réponse que vous me donneriez, vous me parleriez de quelqu'un, de quelque chose, d'un programme, d'un livre, de ressources. Et donc, la question qui vient avec ça, c'est sur quoi ou sur qui s'appuyer, compter? Sur qui est-ce que je peux compter pour grandir spirituellement? Et comme j'aborde le sujet de l'Église et cette Église qui appartient à Dieu, puis j'étais en train d'étudier le texte, puis je me disais, il y a des gens qui vont écouter ça dans notre société tellement individualiste et qui vont avoir peur, littéralement peur de l'Église. Il y a des mots dans ce texte-là qui sont choquants pour notre culture, pour notre époque. D'accord? Alors, je veux juste vous rassurer tout de suite. Si je veux grandir et je veux avancer spirituellement, ce n'est pas en m'appuyant sur des gourous. D'accord? Ça va? On a des exemples de gourous et c'est pas en m'appuyant sur des gourous que je vais grandir dans ma foi. Alors, celui-là, il est comique. Maintenant, l'autre qui suit après est pas mal moins drôle. Et certains d'entre vous, vous allez vous rappeler d'un épisode au Japon où il y avait eu des bonbonnes qui avaient été laissées dans le métro là-bas, au Japon. Et donc, c'était tout ça le fait d'une secte, d'accord, qui suivait ce gourou-là, d'accord? Alors, je veux vous rassurer tout de suite, le plan de Dieu pour avancer dans notre marche spirituelle, ce n'est pas de suivre des gourous. Et ce n'est pas ça qui nous est présenté dans le passage ici ce matin. Ce matin, on va voir ensemble quel est le plan de Dieu pour grandir spirituellement, pour avancer, quel est le plan de Dieu pour l'Église aussi, pour sa croissance spirituelle. Et rapidement, pour vous placer dans le contexte, si vous n'êtes pas avec nous dans les Actes habituellement, vous n'êtes peut-être pas ici chaque dimanche matin, là où on arrive dans le livre des Actes, bien tout d'abord, laissez-moi vous dire que le livre des Actes, c'est l'histoire de l'Église au début, d'accord? Alors, Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité d'entre les morts, il est parti rejoindre son Père. Et l'Église commence à être instaurée. Alors, ceux qui étaient les disciples de Jésus commencent à annoncer cette bonne nouvelle. Et un peu partout où ils vont implanter, ils vont mettre en place des assemblées. Église, ça veut simplement dire assemblée. Et donc, le livre des Actes, c'est l'histoire des premières églises, si on peut dire. L'histoire, on pourrait dire aussi, de l'expansion ou de la propagation de cette bonne nouvelle, du message que Jésus est venu donner sa vie pour les hommes. Et c'est à cela qu'on assiste dans le livre des Actes. Lorsqu'on arrive ici au chapitre 20, on arrive à un moment particulier dans l'histoire de... Il y a deux personnages, il y a deux hommes qui ressortent du livre des Actes, Pierre et Paul. On parle de Paul ici. Paul a été vraiment le missionnaire. Celui qui est parti très, très loin de chez lui, annoncer la bonne nouvelle, puis partout où il allait, il était avec une équipe, puis dès qu'il y avait quelques personnes qui commençaient à croire en Jésus, devenaient des disciples, les aidaient à s'organiser comme église. Ça, c'est Paul. On arrive vers la fin de sa course. À tout le moins, c'est ce que tous les chrétiens lui disent, parce qu'il a le projet de se rendre à Jérusalem, et les disciples avertis par le Saint-Esprit, surnaturel, d'accord, disent à Paul, « Paul, ce qui t'attend, c'est pas beau si tu te rends à Jérusalem. Va-t'en pas jusque-là. » Et donc, Paul sait très bien qu'en se rendant à Jérusalem, il reviendra peut-être pas de là. D'accord? Sa vie s'arrête peut-être là. Et donc, il est dans une tournée d'adieu, si on peut dire. Chacune des églises qu'il croise sur son chemin pour se rendre à Jérusalem, plusieurs d'entre elles des églises que lui-même a mis au jour, d'accord? C'est lui le missionnaire implanteur. Alors, à chacune des églises où il s'arrête, il leur dit, les boys, c'est peut-être la dernière fois que vous me voyez. Et on a ici un message de Dieu aux anciens de l'église d'Éphèse. Alors, une des églises qu'il va croiser, ça va être cette église-là, fait venir les anciens à sa rencontre, et puis il leur dit, OK, les boys, je me suis reproduit en vous, je vous ai partagé tout ce que j'avais appris sur Jésus, tout ce que j'avais appris de lui, je vous ai communiqué toutes ces choses-là. Maintenant, je pense que vous me reverrez pas, ça finit là, les gars. Je pense qu'on se revoit au ciel, mais on ne se revoit pas ici sur terre. Et il dit donc, à partir d'ici, c'est vous qui êtes en charge, c'est vous qui êtes responsable. Et donc, ce message-là aux anciens est super important parce qu'il nous donne une fenêtre pour voir c'est quoi le plan de Dieu pour l'Église. Quand Jésus n'est plus là, moi je veux dire, à moins que vous l'ayez rencontré, si c'est le cas, on a des médecins ici qui peuvent s'asseoir avec vous, prescrire des pilules, des choses comme ça, d'accord? Mais je veux dire, Jésus n'est plus là, là. Donc, comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on grandit? Comment est-ce qu'on devient des disciples de Jésus-Christ à une époque où Jésus est auprès du Père? Donc, tout se passe avec l'invisible? Non, il y a quelque chose de visible qui est l'Église et c'est de ça dont on va parler ensemble ce matin. Et je résumerai le message de ce matin à ceci. Dieu a confié sa précieuse Église aux bons soins d'hommes formés comme disciples de Jésus-Christ, comme modèles et comme enseignants de la parole. D'accord? Dieu a confié sa précieuse Église aux bons soins d'hommes formés comme disciples de Jésus-Christ, comme modèles et comme enseignants de la parole. Et on pourrait le résumer juste en trois points. Chaque âme est précieuse, donc l'Église est précieuse. Toute l'Assemblée est précieuse. Deuxièmement, Dieu l'a confié aux bons soins de pasteurs. On va voir ça ensemble ce matin. Et ces gens-là, ce sont des hommes formés pour former. Ce sont des hommes qui ont été formés pour pouvoir former d'autres personnes comme disciples de Jésus-Christ et comme leaders eux-mêmes. Premièrement, l'Église est précieuse. Une des premières choses à comprendre, si vous n'êtes pas chrétien, d'accord, vous êtes en cheminement, vous êtes en réflexion, vous êtes en train de vous poser des questions, vous venez d'une famille chrétienne, vous n'êtes peut-être pas chrétien, d'accord? Vous êtes en cheminement. Une des premières choses à saisir sur le christianisme, c'est que le christianisme repose toute la foi chrétienne. Peut-être que vous êtes en train d'étudier une religion, vous étudiez la religion chrétienne. Vous voulez comprendre c'est quoi la religion chrétienne? Christianisme 101. Tout ça repose sur une chose. Dieu t'a tellement aimé qu'il s'est donné en sacrifice pour toi. D'accord? Christianisme 101. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie, qu'il s'est donné en sacrifice pour toi. Christianisme 101. Et tout est construit là-dessus, d'accord? Maintenant, certains d'entre vous, des chrétiens qui lisaient la Bible depuis longtemps, vous dites, attends un petit peu là. Dieu est pas mort sur la croix. Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix. Ouais, mais Paul est pas mal challengeant ici. Regardez avec moi le verset 28. Regardez le verset 28, ce qui est écrit ici. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. On va voir ça ensemble tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a là. Pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Le sang de qui? Le sang de Dieu. Oh! Alors, il y a deux, trois possibilités ici. Paul est en train de nous passer un message vite. Il est en train de nous affirmer la divinité de Christ. Probablement. Si c'est pas ça qu'il est en train de faire ici, il est en train de dire, bien, comme c'est son Fils, Dieu le Fils qui est allé là, lorsque le Fils a versé son sang, c'est comme si le Père avait versé son propre sang, puisque le Fils est sa chair. Il sort du Père, d'accord? Mais pour comprendre le christianisme, vous devez saisir cette première vérité-là. C'est le fondement même du christianisme. C'est ce qui fait que lorsque tu t'en vas dans une classe puis tu étudies les différentes religions, tu dis, OK, c'est quoi les distinctifs? Et on pourrait regarder les autres, le bouddhisme, on pourrait regarder ensemble l'islam, on pourrait regarder ces différentes pensées-là, ces différentes religions-là. Puis si on parle du christianisme, tu veux saisir ça, même par rapport au judaïsme, d'accord? Ce que Christ a amené, qui donne une perspective nouvelle complètement sur Dieu, c'est que Dieu t'a tellement aimé qu'il s'est donné lui-même en sacrifice pour le salut de ton âme, pour que tu sois sauvé. Et on voit ça dans le passage ici, tout simplement parce qu'il nous dit que c'est au prix de son sang que Dieu s'est acquis l'Église. Alors, ce que ça me dit à moi, c'est que chaque âme est précieuse. D'accord? Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu. Autrement, le Fils ne serait pas venu mourir sur cette croix pour les âmes. Et peut-être que tu ne comprends pas c'est quoi l'enjeu ici, pourquoi Dieu se serait sacrifié pour toi. C'est une autre question, mais saisis ceci ce matin. Chaque âme est précieuse aux yeux de Dieu parce que Dieu est allé aussi loin que de verser son propre sang pour le salut des âmes. Maintenant, lorsqu'on parle d'Église, on parle de quoi? On parle de l'assemblée de ceux qui ont cru en Jésus-Christ. L'assemblée des âmes individuelles qui ont cru dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est ça l'Église. Donc l'Église est précieuse. C'est ce que Paul est en train de me dire ici. Puis en fait, c'est le message qu'il veut passer aux anciens. Si vous lisez un tout petit peu entre les lignes, ces gars-là, lorsque lui est parti, il y avait de la pression, mes amis, là. Il y avait une pression incroyable sur leurs épaules. À la fin, Paul veut juste enlever un petit peu la pression, puis il dit, je vais vous recommander à la grâce de Dieu. OK, les boys, vous ne serez pas capables de faire la job par vous-même. Je vais vous recommander à la grâce de Dieu. Autrement, vous allez vous écraser, les gars. Parce que vous comprenez, cette église-là, qui vous est confiée, sur laquelle le Saint-Esprit vous a établi, elle est tellement précieuse aux yeux de Dieu qu'il a envoyé son fils mourir sur la croix pour elle. Moi, je veux pas une job comme ça, vous comprenez? C'est trop difficile. À moins que le Saint-Esprit me dise, Yannick, c'est ça que tu vas faire. OK, c'est bon. Autrement, je veux pas ça. Je veux pas ça. L'Église est précieuse aux yeux de Dieu. Maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est dans ce verset-là qui est super importante pour comprendre ce que c'est le christianisme. Et peut-être que tu es en train de cheminer spirituellement et si tu es dans l'Église depuis longtemps, tu as entendu toutes les histoires bibliques, toutes ces affaires-là, puis tu te dis, OK, je sais pas si je suis chrétien. Ce matin, je vous donne une question au test. Vraiment simple. Et votre réponse à cette question-là va vous donner une réponse finale à 95% à savoir si vous êtes chrétien ou non. D'accord? Si je m'assoyais personnellement avec vous, on avait un petit café ensemble, puis qu'à un moment donné, comme ça, tout de go, je vous posais la question toute simple. À qui appartiens-tu? À qui appartiens-tu? Si votre première réponse, votre réflexe, c'est « j'appartiens à personne » ou « j'appartiens à moi-même », selon toute probabilité, vous n'êtes pas chrétien. Vous n'êtes pas chrétien. Vous n'avez pas compris le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour vous. Parce qu'au moment où tu saisis ce que Christ a fait pour toi, qu'il a donné sa vie, la seule bonne réponse qui vient à l'esprit, c'est « Seigneur, merci, voici ma vie. Je t'appartiens maintenant. » C'est la seule bonne réponse. Alors si ce matin, devant cette question-là, à qui appartiens-tu? Ta réponse est « Je sais où tu t'en vas, Yannick, mais je ne suis pas prêt pour ça. » Écoute, peut-être que l'Esprit est en train de travailler dans ton cœur, peut-être que Dieu est en train de t'attirer, mais si ta réponse, c'est certainement pas à quelqu'un d'autre qu'à moi-même, probablement que tu n'es pas chrétien. Et le jour où cette décision-là va être prise dans ton cœur, il y a quelque chose de fondamental qui va changer. Ce qui est sous-entendu dans le texte, c'est que Christ est mort sur la croix, puis en donnant sa vie, il s'est acquise nos vies. Il a donné sa vie pour nous afin que nous vivions pour lui. Il est venu nous racheter par son sacrifice afin que nous lui appartenions en retour. Et ça, c'est important de le saisir parce que ça détermine fondamentalement ta compréhension de la croissance spirituelle, du cheminement spirituel. Tant que tu n'as pas saisi cela, tu es un freelancer, tu es un agent libre dans le monde, dans l'univers, tu es propriétaire de ta vie, puis tu es un agent libre qui est en train de te dire « Dieu m'a donné une intelligence comme à n'importe qui, et donc je vais regarder ce qui circule un peu partout dans le monde, puis je vais trouver des trucs pour grandir spirituellement, pour cheminer spirituellement. » Comprenez, tu es un agent libre. Mais au moment où Christ saisit ton cœur et que tu comprends le sacrifice qu'il a fait pour toi, tu saisis que tu ne t'appartiens plus, tu lui appartiens maintenant. Il a donné sa vie pour toi afin que tu vives pour lui. Tu n'es plus un agent libre. Tu appartiens à Christ. Et là, la question simplement, c'est de dire, OK, Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'avance spirituellement? Comment est-ce que tu veux que je grandisse? Et pour moi, ce texte-là répond très bien à cette question. Parce qu'il nous parle de l'Église. Il nous parle de cette Église, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est l'assemblée de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, de tous ceux qu'il a rachetés parce qu'ils ont cru dans son sacrifice. Et cette assemblée-là, il se l'est acquise et il l'a confiée. Et c'est probablement là que va être le défi pour toi, si ce n'est pas déjà clair dans ton esprit. Maintenant, à ce point-ci, moi, je pense que la suite du sermon est bonne pour les chrétiens ou les non-chrétiens. Parce que je pense que notre réflexe, comme chrétien aussi, comme être humain, tout simplement, c'est de dire, attends un peu, bonhomme, moi, je te check aller, mon gars. Je te check aller, puis t'es mieux d'être digne de ma confiance, parce qu'autrement, t'oublies ça. Et dans le fond, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on va avoir cette retenue. Je comprends. Tout à l'heure, on va parler de gourou, on va parler de loup. Je comprends cela. Mais je dois saisir premièrement que Dieu a envoyé son Fils qui est mort sur la croix pour mes péchés. S'il a fait ça, il savait ce qu'il faisait. Et moi, personnellement, si j'avais à le faire, ce ne serait pas pour sauver du monde puis les confier à n'importe qui, n'importe comment. qui allaient devenir n'importe quoi, puis les laisser aller comme libres par eux-mêmes, sans les guider, d'accord? Et donc, cette Église qui est précieuse aux yeux de Dieu, qui est précieuse aux yeux de Christ, parce que c'est lui-même qui s'est offert en sacrifice, il l'a confiée à des pasteurs. Il l'a confiée à des pasteurs qui sont là pour en prendre soin. Une des choses que je voudrais souligner dans le passage, on va le voir rapidement avec une acétate, mais c'est un bon passage pour juste clarifier une question qui est relativement simple, mais en même temps qui est mêlante dans les Écritures. De quoi on parle lorsqu'on parle de pasteur? On parle d'anciens, on parle d'évêques, on parle de bergers. Il y a toutes sortes de termes qui sont utilisés. C'est un beau passage parce qu'à l'intérieur du même passage, vous avez les trois qui sont présents, d'accord? Dans le Nouveau Testament, dans les Écritures, qu'on parle d'évêque, qui veut dire surveillant, qu'on parle d'ancien, qui est un concept plutôt juif, c'était présent cette idée des anciens du village qui étaient là pour trancher sur des questions, diriger, guider, ou qu'on parle de cette image du berger qui est là pour prendre soin, qui est là pour être prêt à se sacrifier pour prendre soin des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, du troupeau de Dieu, littéralement. Les trois représentent les mêmes personnes, le même rôle dans l'Église. Et donc, au début, ce que Paul fait, c'est qu'il fait venir les anciens. Donc, ils sont présentés ici comme des anciens. Si on s'en va un petit peu plus loin, au verset 28, il nous dit, il leur dit, « Prenez donc garde, toujours en parlant aux anciens, à vous-même et à tout le troupeau. » Alors, il s'en va avec cette image, cette imagerie de la bergerie qui demande des bergers. « Alors, prenez donc garde à tout le troupeau sur lequel vous avez été établi, quoi? Surveillant, évêque. » Les anciens ont été établis surveillants pour faire quoi? Pour paître le troupeau. Ce sont des bergers. D'accord? Alors, les trois termes sont interchangeables. Et remarquez une chose qui est super importante ici. Il ne s'en va pas rencontrer un pasteur, il s'en va rencontrer les pasteurs de l'Église d'Éphèse. Et donc, lorsque Christ va dans une région par son esprit, conduit des gens à devenir ses disciples, rapidement, ce qu'il va chercher à faire, par son esprit, à travers les missionnaires qui vont là, c'est établir des anciens dans l'Église. Qualifier des hommes qui vont être là pour paître, pour prendre soin de l'Église. Et ces gens-là vont travailler ensemble. Maintenant, ce qui est mentionné ici, tout à l'heure, ce que je vous disais, qui fait trembler les pasteurs, les anciens, et ce qui fait honnêtement qu'on n'est pas nombreux. D'accord? Dans l'assemblée ici, actuellement, il y a trois anciens, il y a trois pasteurs, il y a trois évêques dans l'Église ici. Au nombre qu'on est, on devrait être 10. Pour prendre soin de l'Assemblée comme il faut, nous devrions être 10. Mais quand tu vas t'asseoir avec un gars et tu lui dis, les anciens voient en toi potentiellement un ancien. C'est inévitable. D'ailleurs, si c'était le contraire, nous, on se sauverait en courant. Mais c'est inévitable. Le gars commence à trembler. Puis quand il en parle à son épouse, elle dit, attends un peu, je suis sûr que Dieu peut nous trouver d'autres choses à faire dans l'Église. Généralement. Vous comprenez? Parce que ce qui nous est dit ici, c'est que le Saint-Esprit confie l'Église à ces gens-là. C'est toute une responsabilité. C'est une responsabilité qui nous fait trembler, qui doit nous faire trembler les anciens. Parce que c'est énorme comme responsabilité. Mais dans sa sagesse divine, Dieu a décidé que des hommes allaient être là mis en place pour prendre soin d'autres personnes. Donc des pécheurs. Des gens imparfaits. Vous comprenez, ici, il n'y a pas de bulle papale, il n'y a pas de publication ex cathedra. Ça n'existe pas, ça, là. Parce que ces gars-là, ce sont des pécheurs. Pareil comme vous. Moi, je suis un pécheur, pareil comme tout le monde. Ma femme le sait. Les gens avec qui je travaille le savent. Mes enfants le savent de plus en plus. D'accord? Je suis un pécheur, pareil comme tout le monde. Mais c'est les desseins de Dieu, c'est comme ça que Dieu l'a conçu. Dieu va leur confier par son esprit. On a vu la semaine dernière que Paul connaissait l'appel sur sa vie. L'appel sur sa vie, c'était d'aller annoncer l'Évangile aux païens. L'appel sur la vie de ces gars-là, c'est d'être berger de cette église-là localement. C'est l'appel de Dieu sur ma vie à moi ici. C'est l'appel de Dieu sur la vie d'Alexandre, sur la vie de Robert Saint-Pierre. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas nous envoyer ailleurs. Ça ne veut pas dire que des gars ne vont pas aller faire un doctorat, ne vont pas aller implanter des églises. Ce n'est pas ça. Mais il y a cet appel parce qu'ils sont donnés à l'Église pour prendre soin de l'Église. Et ça pose une question importante par rapport à votre attitude, à vous, votre compréhension de notre rôle à nous. Chacun des croyants a reçu le Saint-Esprit. Chacun des enfants de Dieu a reçu le Saint-Esprit. Et nous sommes tous responsables de notre marche chrétienne. Maintenant, Dieu, à moins qu'il vous appelle à être ancien, ne vous confie pas l'Église. Dieu nous confie l'Église. Et nous avons la charge d'aller dans la prière, d'aller dans les Écritures, de comprendre où est-ce qu'on doit conduire cette Église-là. Les choses qui ne vont pas, les choses qui vont bien. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas être à l'écoute de l'Église, au contraire. Mais il demeure que la responsabilité est ici. D'accord? Quand je dis ici, je ne parle pas de la chair. Je parle du collège des anciens. Et c'est toute une responsabilité. Dieu ne confie pas son Église à des gourous. Je voudrais faire un point ici, d'accord? Parce qu'on vit à une époque où l'information circule énormément et puis à tout moment donné, on entend des histoires sur des églises où tu as une espèce de dirigeant de secte qui est là, qui est un despote, qui vivait dans le fond dans un paquet de péchés, puis ça sort dans les médias, puis finalement tu découvres que le gars c'est un gourou. C'est jamais le fait de Christ, c'est jamais Jésus-Christ qui a mis ce gars-là en place pour qu'il devienne un gourou. Dans le langage biblique, les gourous sont appelés des loups. D'accord? C'est comme ça qu'on les appelle dans la Bible. Regardez dans le passage avec moi un tout petit peu plus bas. Verset 29. Et ils viennent d'où les loups? Ça se peut qu'il y en ait ici. Plate à dire, mais c'est la vérité. Parce que c'est bien rare, tu sais, que c'est un gars qui, je sais pas moi, était juste un sportif qui n'avait rien à voir avec les chrétiens. Puis il rentre ici et dit, hey, je m'en viens vous diriger la gang. Non, en général, tu sais, il sort du milieu des chrétiens, il passe sur une frippe, puis il décide qu'il veut entraîner le monde avec lui. Verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » Et Paul voyait juste parce qu'une bonne partie des épîtres traite de ces questions-là. Après, les lettres qui vont suivre attaquent ces questions-là. Il y a un pasteur, j'apprécie beaucoup son franc-parler. Voici ce qu'il disait sur ce qu'on fait avec ces gens-là pour avoir la pensée de Dieu sur ça. Je vais te dire en anglais, je vais vous traduire après. Il dit « Feed the sheep, rebuke the swine, shoot the wolves. » C'est bon? Alors, nourrissez les brebis, reprenez les porcs, ceux qui sont têtus, qui ne veulent rien savoir, puis tire les loups. Et c'est ça qui nous est dit ici. Alors, quand vous entendez des histoires dans les médias, d'accord? Peut-être des histoires proches de vous-même. Où vous voyez des pasteurs qui se comportent en petits rois et ils sont là pour dominer, ils sont là pour abuser, puis il s'avère en fin de compte que ces gens-là avaient des vies doubles. Ce n'est pas Jésus-Christ qui les a mis en place, ce n'est pas l'Esprit-Saint qui les a mis en place, ce sont des loups. Et une église qui fait bien son travail, des anciens qui font bien leur travail, sont toujours en train d'être à l'affût pour voir si dans l'Église, il n'y a pas des fausses doctrines, des fausses idées qui commencent à se véhiculer, des gens qui deviennent abusifs dans leur comportement, qui sont là pour profiter des autres. On est dans un espace de fragilité, d'accord? Lorsqu'on parle de la spiritualité des gens, on parle de ce qu'il y a de plus intime en une personne. Et la spiritualité a des implications dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Et donc, lorsqu'on commence à œuvrer dans la vie spirituelle d'un individu, cette personne-là va venir à s'ouvrir. Et si elle veut grandir, elle va devoir se rendre vulnérable. Dans le fond, c'est de ça que je vous parle ce matin. Certains d'entre vous, vous êtes là et vous dites, non, oublie ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'il va me le dire à moi. Je vais savoir comment grandir par moi-même. Je ne vais certainement pas être confié à des hommes dans une église. Oublie ça. Alors, peut-être qu'il y a des mauvaises expériences, mais ce que tu crains, c'est de te rendre vulnérable. C'est ça que tu crains. Je comprends ça. Peut-être que tu t'appuies sur ce que tu as entendu dans des médias où il y a eu toutes sortes d'abus. Je comprends ça aussi. Notre chair, notre nature fait qu'on va trouver toutes les raisons pour ne pas se rendre à cet endroit-là. Mais si vous êtes en train d'avancer spirituellement, si vous êtes en train de grandir, c'est parce que vous vous êtes rendu vulnérable. La semaine dernière, on donnait des exemples de formation de disciples, de gars qui vont dans la prière. Puis je vous dis, ces gars-là se rendent vulnérables pour avancer. Et donc, c'est ça l'Église. Ce sont des gens qui choisissent volontairement, conduits par l'Esprit, à se rendre vulnérables les uns aux autres. Et ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se promener puis qui vont être là pour profiter de ça. Des anciens qui font bien leur travail sont à l'affût de ces choses-là. Mettre en place des gens qui ont un discernement pour comprendre les Écritures, pour détecter ces choses-là. Et c'est notre responsabilité de le faire. Est-ce qu'on va faire des erreurs? On va faire des erreurs. Il y en a qui vont se rendre trop loin avant qu'on réussisse à intervenir, puis sortir le shotgun, puis faire la job qu'il faut faire. On appelle ça la discipline ecclésiastique en passant. C'est un autre sujet, d'accord? On ne fait pas ça avec un vrai gun. Ça, je garde ça pour les chevreuils, d'accord? Mais c'est le travail des anciens de faire ça. Alors, quand vous entendez des histoires où il y a des abus, puis il y a toutes sortes d'affaires, lorsque vous allez dans une église, puis vous discernez à travers le temps que le gars qui est en train de diriger en avant n'est pas en train de diriger avec d'autres anciens auxquels il est lui-même soumis, si le gars qui est en avant n'est pas lui-même un bel exemple de ce que c'est un disciple de Christ en train d'apprendre humblement, en train de grandir, changez d'église, sauvez-vous, trouvez une église où il va y avoir quelqu'un en avant qui est capable de confesser ses péchés publiquement, d'accord? Trouvez ça, puis quelqu'un qui rend des comptes à d'autres mondes, d'accord? Parce que c'est pas le Saint-Esprit qui l'a établi là, celui-là, je vous le garantis. Christ ne confie pas son Église à des gourous, il la confie à des pasteurs, des bergers. Et qu'est-ce qu'on apprend sur ces personnes-là, sur ces gars-là? Ces gars-là, ce sont des hommes qui ont été formés pour former, d'accord? Je veux juste sortir quelques éléments ici. Quelques éléments qui vont vous interpeller, vous aussi, parce que les prochains anciens sont dans la salle, ne sont pas sur l'estrade, d'accord? Les prochains anciens sont là, les prochains leaders sont là, les prochains missionnaires sont dans la salle, ne sont pas ici, d'accord? Alors, juste quelques principes qu'on tire ici en voyant comment Dieu les a formés. Ce sont premièrement des hommes qui ont appris à être disciples. Regardez avec moi les versets 26 et 27. Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Ces gars-là à qui l'Église est confiée, puis Paul leur dit, regardez les boys, je repasse pas ici, you're in charge, par la grâce de Dieu avec le Saint-Esprit. Ces gars-là, Paul s'est investi en eux pendant 3 ans à les former, à les instruire, à les conduire dans la parole de Dieu. Ces gars-là ont dû premièrement être des étudiants de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul va dire plus tard que celui qui aspire à la charge d'ancien ne doit pas être un jeune croyant. Pas parce que le gars peut pas être doué, parce que le gars a besoin d'apprendre, il a besoin de grandir dans sa connaissance de la parole de Dieu. Et donc, ces hommes-là ont été placés sous le ministère de Paul et ils ont appris. Ils ont été formés comme disciples. Regardez le verset 31. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul a vécu avec eux la vie chrétienne. Quand on essaie de comprendre c'est quoi un disciple de Jésus-Christ, c'est quelqu'un qui a entendu le message et qui a vu un chrétien vivre la vie chrétienne. C'est ça un disciple de Christ, qui est maintenant en train de le reproduire lui-même. Lorsqu'on regarde comment est-ce que Jésus lui-même travaillait, il a vécu avec ses disciples, il les a enseignés, mais il a vécu avec eux. Et à un moment donné, vers la fin de son ministère, juste avant d'être arrêté puis d'être crucifié, lorsque Christ s'en va prier, puis les 3 gars vont s'endormir, tu sais, ils les amènent avec lui, puis là, il dit, les boys, j'ai vraiment besoin de votre support. Si vous voulez être sacoche, c'est tout de suite que vous allez l'être. Vous allez être là, vous allez prier avec moi. Vous pensez pas que Seigneur Jésus savait pas qu'il allait s'endormir, les gars? Mais il voulait que ces 3 gars-là voient ce que lui est en train de vivre. Il voulait que ces 3 gars-là voient leur propre faiblesse et voient le modèle qu'ils doivent devenir. Alors, quand Jésus formait des disciples, il était avec eux, il vivait avec eux, il les enseignait, mais il incarnait, il vivait les valeurs qu'il prêchait. C'est ce que Paul a fait avec les gars à Éphèse ici. Ce que ça implique, c'est que quelqu'un qui devient pasteur, quelqu'un qui devient ancien, c'est quelqu'un qui a premièrement été formé comme disciple. C'est quelqu'un qui a appris l'humilité d'être repris, d'être réprimandé. L'humilité de se voir corrigé dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il enseignait. C'est quelqu'un qui a appris à confesser ses péchés. Et c'est ça qu'on fait concrètement lorsqu'on forme des anciens ici. Ça commence par la formation de disciples. On s'investit dans les vies des uns des autres, puis on fait de la formation de disciples. Puis on essaie déjà, à cet endroit-là, que ce soit dans les petits groupes ou à travers des relations plus serrées encore, on commence déjà à communiquer ces valeurs-là de redevabilité, de transparence. D'être prêt à m'ouvrir, à écouter un enseignement, puis tu détectes lorsque les gens disent « Non, regarde-moi, je veux pas », puis on va dire « Ils sont pas enseignables ». C'est clair qu'il est en train de se disqualifier pour l'ancienat. Il y a du chemin à faire, il faut qu'il apprenne. Et lorsque les gars commencent à se démarquer comme leaders, on s'investit encore davantage dans leur vie. Tout à l'heure, il y avait Oscar qui était ici sur l'estrade avec nous, puis j'ai mentionné qu'Oscar aspire au ministère pastoral, il aspire à l'ancienat, il aspire à éventuellement peut-être avoir la responsabilité de faire ce que moi je fais. Mais qu'est-ce que je fais lorsque je rencontre Oscar? Je pose des questions toutes simples, du genre, Oscar, est-ce que tu résistes au Saint-Esprit dans un domaine dans ta vie? Oscar, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie que t'as pas le goût de me partager, puis le Saint-Esprit dit que tu devrais me le dire parce que t'as besoin de le confesser, puis t'as besoin que je prie avec toi là-dessus? Oscar, comment ça va ta gestion du temps? Excuse-moi, Oscar, de pas arrêter de te nommer. Comment tu gères ton portefeuille? À quelle heure tu t'es couché hier soir, mon ado? Bon, il y a des bouts qu'on travaille encore, vous comprenez? Mais c'est ça la relation qu'on installe. C'est une relation de transparence. On est en train de s'investir dans l'individu. Lorsque la personne, lorsque le gars devient ancien, il n'est pas en train de se dire « c'est quoi un disciple de Christ? » C'est intuitif. Comment je forme un disciple de Christ? C'est devenu intuitif ce processus-là. Ces hommes-là avaient appris c'est quoi être un disciple de Christ. C'est quoi décider que ton portefeuille ne t'appartient pas, il appartient à Christ. C'est quoi décider que ton temps ne t'appartient pas, il appartient à Christ. C'est quoi décider que ta vie privée, c'est quelque chose que parfois tu dois ouvrir pour pouvoir aller confesser un combat, un péché que tu vis. Et ces gars-là vont garder une relation comme ça toute leur vie. Plus tard, on va voir Timothée qui va retourner à Éphèse, puis on voit que les gars sont encore en train d'être formés dans cette période-là. Moi, personnellement, je l'ai dit souvent à l'église, je suis encore coaché. Je suis coaché par un plus vieux pasteur qui a plus d'expérience, qui est capable de me regarder dans les yeux, puis qui est capable de me dire, Yannick, arrête, s'il te plaît. Arrête, tu résistes à Dieu, t'es pas repentant. Je vous le dis qu'il me dit ça. Comme ça. C'est ça, apprendre à être un disciple de Christ, vous comprenez? Alors, ces anciens-là, ce sont des hommes qui ont été formés pour connaître la parole de Dieu. Ils ont été formés dans l'attitude du cœur pour devenir des disciples de Jésus-Christ. Ils ont appris à veiller sur leur propre cœur. Regardez le verset 28. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. » La première chose qu'un ancien doit apprendre à faire, quelqu'un qui aspire à cette charge-là, c'est à se méfier premièrement de lui-même. C'est la première chose. Veiller sur mon propre cœur, sur mes disciplines spirituelles, sur l'état de mon cœur, sur l'amertume qui voudrait s'installer, sur l'égoïsme qui est là, qui veut faire des ravages. Celui qui aspire à ça se prépare et apprend à examiner son propre cœur, veiller sur lui-même avant de veiller sur les autres. Ces gars-là avaient appris ça. Et ils l'avaient appris d'autres hommes qui ressemblaient à Jésus-Christ et à Paul. Parce que plus tard, Paul va nous dire, « Tout ce que je vous ai appris maintenant, confie-le à d'autres hommes fidèles qui vont être capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Et donc, ceux qui aspirent à la charge d'ancien sont dans un processus de formation où ils apprennent ces valeurs-là, ce style de vie-là. Et ce sont des hommes qui apprennent à avoir du discernement. Une autre fois, j'adresserai la question, pourquoi est-ce que je n'ai pas arrêté de parler d'hommes et je n'ai pas parlé de femmes? D'accord? J'ai pensé le faire ce matin, mais honnêtement, je n'avais pas le temps. Ça va me faire plaisir de le faire. Je prends une note sur ça. Mais il semble vraiment que c'est un modèle biblique très clair, que Dieu appelle des hommes à jouer ce rôle-là au sein de l'Église. Ce matin, je vais terminer avec quelques questions, d'accord? Quelques questions pour chacun d'entre nous ici. J'aimerais ça que vous partiez avec ça et que vous réfléchissiez à ça. Vous savez, dans quelques semaines, je vais prendre une pause pour 11 semaines, je vais aller dans la prière, je vais chercher la face de Dieu. Et dans mon cœur, sur le cœur des anciens, c'est de dire, regarde, Seigneur, on a une mission. On a une mission, puis tu nous as confié une église extraordinaire, avec des ressources incroyables, puis on a l'impression qu'on est en première. On veut passer en quatrième. Montre-nous comment faire, Seigneur. On veut faire des disciples ici, là où tu nous as placés, Seigneur. C'est ça qu'on veut faire. Alors, je vous laisse ces questions-là. Première question, je l'ai posée, puis c'est la plus fondamentale. Oublie tout le reste du message. Ta réponse à celle-là, c'est le plus important. À qui appartiens-tu? Parce qu'on a vu dans le passage ici, c'est que toute âme est précieuse aux yeux de Dieu et qu'il vient pour la racheter au prix de sa propre vie, au prix de son propre sang. Dieu le Fils est venu sur la terre mourir sur cette croix, verser son sang pour racheter des âmes. Et une âme qui a été rachetée appartient à Christ. Il a versé son sang pour ça. Il a donné sa vie pour ta vie. À qui appartiens-tu? Maintenant, si c'est clair dans ton esprit à toi, tu dis, moi, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à aucun homme. Amen. T'appartiens pas à cette église. T'appartiens pas à Yannick qui est en avant. T'appartiens à aucun homme. T'appartiens pas à un gourou. T'appartiens à Dieu, mais tu ne t'appartiens plus. Une fois que tu as répondu à cette question-là, la question, c'est la suivante. Est-ce que tu embarques dans le plan de Dieu pour ta vie spirituelle de plein cœur? Ce qu'on a vu ensemble ce matin, c'est que cette église que Christ a rachetée, il l'a confiée à des hommes qui sont là pour en prendre soin. Est-ce que tu acceptes ce concept-là, que tu as été confié à des hommes pécheurs qui sont là pour prendre soin de toi, donner une direction à ta croissance spirituelle? Ou est-ce que tu es ce qu'on appelle en anglais un « church hopper »? Tu te promènes d'église en église de peur qu'avant trop longtemps, des gens disent « Hey, tu colles-tu avec nous? On voudrait grandir. En passant, comment ça va ta vie spirituelle? » Est-ce que c'est ça? Je le dis souvent dans l'église ici, si vous êtes rendu à l'endroit où vous dites, regarde, moi je veux prendre une décision, je veux marcher avec Dieu, fais le pas de foi, premièrement, de te faire baptiser, de témoigner publiquement de ton engagement envers Jésus-Christ. Deuxièmement, attache-toi à l'église ici. Prends l'engagement en allant prendre le cours sur l'église de l'espoir. On va t'expliquer comment on fonctionne. Et publiquement, ce que tu es en train de dire, tu dis, ça, c'est l'église locale où je veux grandir. Il y en a plein d'autres bonnes églises locales, vous comprenez? Vous n'êtes pas obligé d'être ici. C'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est que le plan de Dieu, c'est être dans une église locale, confié à un collège d'anciens qui est là pour donner la direction, qui est là pour paître, pour prendre soin. Est-ce que tu es de plein cœur dans ça? Ou pour toutes sortes de raisons personnelles, tu es sur le break. Tu retiens ça puis tu dis, regarde, moi je viens ici, je m'en viens t'écouter, j'ai fait de ma part. T'es plate en plus, man. Fait que, tu sais, déjà, j'ai donné pour cette semaine à Jésus. Ça va? Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que tu es là plein cœur? Tu dis, quand tu viens le dimanche matin, tu dis, Seigneur, je m'en viens écouter ta direction pour ma vie. C'est énorme, là. Comprenez pourquoi souvent je ne chante pas le dimanche matin, mais j'ai deux yeux fermés et je pleure? Parce que c'est ça que je m'en viens faire ici en avant. Est-ce que vous êtes là ou vous êtes en train de retenir? Est-ce que tu pries et tu appuies les pasteurs à qui le Seigneur t'a confié? Après ce que j'ai dit là, j'espère que vous priez pour nous. J'espère que vous priez pour nous. Parce qu'il m'arrive, moi, de prier et de dire, Seigneur, change-moi ou donne un autre pasteur à cette église-là. Quand je réalise qui je suis et où je suis rendu. Est-ce que tu pries et tu appuies les pasteurs, les anciens de cette église? Ceux à qui Dieu t'a confié? Est-ce que tu pries que Dieu en suscite d'autres? Et est-ce que ton cœur est disponible pour faire de la place pour que d'autres apprennent? Une des belles valeurs de cette église-ci depuis son implantation par M. Beau, un missionnaire qui venait de France, c'est que cette église-là a toujours fait de la place pour que des gens apprennent. Et moi, je suis la meilleure preuve de ça. J'étais tellement plate avant. Je sais qu'il me reste beaucoup de travail à faire, mais c'est rien, là. Je vous dis, c'est du gros progrès à faire, là. Mais moi, j'ai grandi ici, dans l'église. J'ai appris ici. Et ma prière, c'est que cette église n'oublie pas ça. Que nous n'oublions pas notre histoire et que nous fassions de la place pour que d'autres apprennent, qui ont besoin d'apprendre. Et leur ministère va être imparfait. Ils sont dans un processus où ils sont en train d'apprendre, d'accord? Ils vont faire des erreurs, puis vous... Écoutez, mes premières prédications, oubliez ça, là. Oubliez ça. Chez certains, Saint-Esprit, vous auriez conclu qu'il vous disait d'aller ailleurs. Ça va? Est-ce que cet espace-là, est-ce que vous priez pour ça? Parce que notre mandat, c'est pas d'être juste confortable ici. C'est de faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est de grandir numériquement, mais d'atteindre surtout d'autres et de faire des disciples partout. Maintenant, j'ai une question plus personnelle. Et je crois qu'elle s'applique à chacun d'entre vous si vous êtes chrétien. Est-ce que tu poursuis ton appel? Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être pasteurs. Certains d'entre vous, vous êtes appelés à être pasteurs et vous résistez à cet appel-là. Certains d'entre vous êtes appelés à être mariés avec un pasteur et vous résistez à cet appel-là. Mais chacun d'entre nous, on a des dons. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez des dons. Est-ce que tu retiens ces dons-là ou est-ce que tu les places au service de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu cherches cet appel-là dans ta vie activement pour justement être en train de grandir? C'est à ce prix-là que l'Église va être saine, en santé. Si chacun d'entre vous, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, comme on l'a vu la semaine dernière, retournez écouter le message, à l'écoute de l'Esprit de Dieu, vous dites, Seigneur, c'est quoi mes dons? C'est quoi mon appel? Où est-ce que tu m'appelles à servir? Et il y a cette ouverture-là. Dernièrement, j'étais avec un jeune homme, puis j'ai dit, regarde, je pense que Dieu probablement t'appelle là. Oh non, 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 non. Ben, moi, je pense que oui. On va laisser le Saint-Esprit parler. T'es-tu au moins ouvert à ce que le Saint-Esprit parle? Oh, ouais, mais tu comprends pas. Ouais, je comprends. On va prier. Est-ce que vous poursuivez votre appel? Ma dernière question, c'est pour Alexandre, c'est pour Robert, c'est pour moi. Et je vous invite à prier pour nous sur ça. Est-ce que nous, les gars, on est conscient du mandat que Dieu nous a donné de prendre soin de l'Église de Christ? Et est-ce qu'on a cette humilité-là constamment d'examiner nos cœurs et de ne pas prendre pour acquis parce que cette Église-là est tellement précieuse? Et est-ce qu'on est en train de s'examiner? Je pense que ce texte-là, c'était premièrement pour nous. Premièrement pour nous. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Et je t'aime, Seigneur, parce que je t'aime parce que tu m'as aimé, pour être franc. Je t'aime parce que tu m'as aimé au point de donner ta vie pour moi, Seigneur. C'est pour ça que je t'aime, autrement, je serais ailleurs, Seigneur, centré sur moi-même, confiant que je suis au contrôle de ma vie, Seigneur. Mais je t'aime parce que tu as donné ta vie pour moi. Je t'aime, Seigneur Jésus, et j'aime ton Église. J'aime ton Église pas parce qu'elle est parfaite, pas parce que moi je suis parfait puis j'ai un super de beau cœur de berger. Oh non, tu connais mon cœur, Seigneur. J'aime ton Église parce qu'elle est précieuse à tes yeux, Seigneur. Et garde-moi. Et garde-nous, Seigneur. De développer de l'amertume ou du mépris ou de l'indifférence envers ton Église qui est tellement précieuse à tes yeux, Seigneur. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu appelles des hommes à devenir, Seigneur, ces pasteurs, ces bergers. J'ai toujours été placé sous le ministère d'hommes de Dieu, Seigneur, qui avait ses cœurs et qui pouvait me reprendre. Et je te rends grâce pour Alexandre, pour Robert, pour ceux qui s'en viennent, Seigneur, qu'on est en train de former, qui ont déjà ce cœur de berger. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'ils sont mes bergers à moi, qui veillent sur mon cœur et me reprennent et osent me le dire lorsqu'ils ont l'impression que je dérape, Seigneur. J'aimerais te prier en terminant, Père, pour toutes les personnes qui sont dans cette salle. Certains d'entre nous ne t'appartiennent pas, Seigneur. Leur réponse spontanée tout à l'heure, ça a été « Je m'appartiens à moi-même et j'appartiens à personne. Personne d'autre que moi. » Aie pitié d'eux, Seigneur. Montre-leur le péril qu'il y a à ne pas vouloir t'appartenir, mais à vouloir diriger sa propre vie soi-même. Accorde-leur cette grâce. Je te prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous, donne-nous d'embarquer dans ton plan entièrement, avec un cœur docile, Seigneur, de se laisser conduire là où tu veux conduire cette Église, et que ton Saint-Nom soit glorifié. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.